Voilà, ben, très heureux de vous retrouver hier. Vous vous souvenez du premier mot que j'avais cité hier, que Jésus a utilisé pour la première fois lorsqu'il va parler publiquement. Bien sûr, il a dit « heureux comme tous les bébés », mais à un moment donné, quand il va venir comme prophète dans l'évangile selon saint Matthieu, le premier mot qui sort de la bouche du Christ, c'est « heureux, bienheureux », les béatitudes. Alors ça, c'est incroyable, c'est le premier mot des psaumes également. Le premier mot du premier psaume, c'est « heureux ». Et en hébreu, c'est « asher », ça veut dire « en avant, marche ». Heureux, marcher, se bouger, se mettre en route, vont ensemble. On a vu hier que cette plénitude de vie à laquelle Dieu nous appelle, c'était la sainteté. C'est pas la teuf perpétuelle. Il y a un philosophe qui s'appelle Philippe Murray, écrivain, qui parlait de l'homo festivus, l'homme qui festoie, qui était la nouvelle catégorie de ce monde que nous connaissons. Il nous disait également, on a vu également que nous avions en nous des tentations qui étaient là, des combats, mais en même temps des grandes inclinations, on en a parlé tout à l'heure, des grands désirs qui peuvent nous habiter. On est tous faits pour la vie, on est tous faits pour être des vivants. On est faits par un désir profond à la vie. Et donc, vous voyez, quand Dieu nous donne les commandements, tu ne tueras pas, c'est parce que c'est fait pour la vie, ça s'écrit dans ton cœur. Et donc, bah, tu ne tueras pas. Tu es fait pour le bonheur. Alors, tu n'auras pas d'idoles et de faux dieux qui te conduiront vers le malheur, nécessairement. Tu es fait pour la vérité. Donc, tu ne feras pas de faux témoignages. Quatrième inclination naturelle, tu es fait pour la conjugalité. Donc, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas l'autre, la personne de l'autre. Cinquièmement, tu es fait pour la vie en société. Donc, tu ne convoiteras pas le bien de l'autre. Fait pour la vie, pour le bonheur, pour la vérité, pour la conjugalité, pour la vie en société. Voilà notre être complètement ouvert vers l'autre, livré à la vie en plénitude. Reste qu'on a vu aussi hier que la pauvreté, notre misère, elle nous colle parfois à la peau. Un jour, il y a un peintre qui vient trouver le pape Léon XIII et qui dit « Saint-Père, est-ce que je peux faire croquer votre sainteté ?» Enfin, c'est moi qui rajoute ça, l'histoire est authentique. Alors le pape dit « Ben allez-y, peignez ma tête si vous voulez ». Et alors, le peintre vient un mois plus tard avec le portrait du pape. Manifestement, ce peintre avait beaucoup de bonne volonté et très peu de talent. De sorte que le portrait était moyennement réussi et très peu ressemblant. Et le pape, très charitablement, accueille le portrait en disant « Merci beaucoup, est-ce qu'on pourrait juste rajouter une citation biblique sur le portrait ?» Et alors, le peintre dit « Mais Saint-Père, aux anges, puisque le pape lui demandait quelque chose, « Dites-moi la phrase que je vais écrire. » Et le pape dit « Marquez juste la référence, ceux qui liront comprendront. » Alors il dit « Mais c'est quoi la référence ?» Le pape dit « Marquez Jean 6, 20. » Or Jean 6, 20, c'est une scène intéressante. Jésus renvoie les apôtres, ils sont sur le lac de Tibériade, c'est la grande tempête. Ils voient arriver Jésus qui les rejoint en marchant sur les eaux. Ils paniquent, ils le prennent pour un fantôme. Et Jean 6, 20, c'est Jésus qui dit « N'ayez pas peur, c'est moi. » Alors, nous sommes tous appelés à la sainteté. Parfois, ça ne ressemble pas tout de suite toujours, vous voyez. Et donc, on serait tatoué sur le front Jean 6, 20. Pour certains, c'est avant le café le matin, vous voyez. Ils sont en mode zombie. Ils sont là, ils se disent, ouh là là, où est le café? Après le café, il y a le zygomate qui se débloque. Et il y a quelque chose qui se passe, un phénomène physique, biophysique, assez étonnant. Voilà. Donc, Jean 6, 20, c'est parfois qu'on ben voilà, on n'est pas tout à fait comme on l'imagine. Et pourtant, c'est là que Dieu nous attend. Dans la Bible, il y a une scène très importante. Le peuple juif sorti d'Égypte se trouve au pied du Sinaï où Moïse a reçu la parole de Dieu, enfin les commandements de Dieu. Et voilà que tout d'un coup, ils pensent qu'il n'est plus là, qu'il est mort, qu'il y a des problèmes. Enfin, ils font des idoles et tout ça. Et à un moment donné, il y a une tragédie qui arrive, des serpents brûlants, des séraphes en hébreu, qui commencent à les mordre et les faire mourir. C'est la panique totale, Moïse arrive et disent Moïse, c'est la cata, on est tous en train de se faire zigouiller par les serpents brûlants. Alors Moïse va négocier avec le bon Dieu en disant, Dieu, il y a un problème avec ton peuple, il dit, c'est pas le mien, c'est le tien, enfin c'est le nôtre, enfin voilà, voilà. Et puis ils disent, les serpents brûlants les font mourir. Ah, dit Dieu, question importante. Alors j'ai la solution, j'ai le remède. Ah bon, merci, dit Moïse, il commence à prendre des notes. Fais-toi un serpent brûlant. que tu dresseras au milieu du camp. Tu n'as pas très bien compris, Seigneur. Ils ont la phobie des serpents. Donc, tu n'as pas une autre solution? Tu n'aurais pas un autre truc un peu plus efficace, d'ailleurs? Et Dieu dit, non, c'est bon, tu vas te faire un serpent brûlant. Mais justement, c'est leur problème, le serpent brûlant. Ils en meurent. Alors, dit Dieu, fais-toi un serpent brûlant que tu vas dresser au milieu du camp. Et quiconque regardera vers le serpent brûlant vivra. Alors, on se dit, mais pédagogiquement, psychologiquement, ce n'est pas très habile de la part du Seigneur, voyez-vous, de mettre les gens en face de leur phobie et de leur dire, ton problème, c'est ça, donc mets le doigt dans ton problème. Oui, mais c'est très profond, voyez-vous. Parce qu'un serpent brûlant sans Dieu fait mourir et un serpent brûlant avec Dieu fait vivre. La grande différence, ce n'est pas le serpent brûlant, c'est avec Dieu ou sans Dieu. Mon péché, mes difficultés de vie, mes drames existentiels, mes échecs scolaires, ce que vous portez peut-être dans votre cœur en venant ici, sans Dieu est une catastrophe et c'est la ténèbre et la mort. Si vous mettez Dieu là au milieu et que vous regardez ce même problème, cette même difficulté, ce même péché avec Dieu, alors vous rentrez dans la vie. Vous rentrez dans la vie. Voyez-vous ? Et la frontière, ce n'est pas le serpent brûlant ou pas de serpent brûlant. La question, c'est avec Dieu ou sans Dieu. Voilà donc ce qu'on a essayé de voir hier, ces choix qu'il va falloir faire, ce chemin qu'il va falloir faire, en acceptant justement notre pauvreté. Je disais que c'était juste le contraire de Nietzsche dans le catéchisme logique de l'antéchrist. Nietzsche pose la question, enfin, qu'est-ce qui est bon? Tout ce qui exalte en l'homme le sentiment de puissance, la volonté de puissance, la puissance elle-même, qu'est-ce qui est mauvais? Tout ce qui a sa racine dans la faiblesse. Ben, chez nous, ce n'est pas tout à fait ça, voyez-vous. Jean-Paul Ier disait, le Seigneur aime tellement l'humilité qu'il permet parfois des péchés graves. Pourquoi? Pour que ceux qui ont commis ces péchés restent humbles une fois repentis. On n'a pas envie de se croire des demi-saints ou des demi-anges quand on a commis des fautes graves. Et le pape François dit, il y a des gens qui sont tellement gonflés des fois que je suis en train de prier en disant, Seigneur, jette-lui une peau de banane afin qu'il se prenne une belle glissade et qu'il enrage d'être un pécheur. Enfin, il pourra te rencontrer. Et clac, comme ça. Donc, l'expérience de la pauvreté devient le lieu d'une rencontre. Reste qu'il y a un choix qu'il va falloir faire. Il y a une décision qu'il va falloir prendre. Dieu ne rentre pas par effraction dans vos vies. Ce n'est pas un violeur de cœur, ce n'est pas un voleur qui rentre par effraction. Il rentre par la porte que vous voudrez bien ouvrir. Dans la tradition juive, vous savez, avant l'Exode, ils étaient en terre d'esclavage, en terre de servitude en Égypte, et Dieu avait demandé de marquer du sang de l'agneau les embrasures des portes. Alors, l'ange devait passer au-dessous, préserver les familles hébraïques, et voilà. Les Juifs se disent, attends, l'ange, il savait lire sur les boîtes aux lettres le nom des personnes. Et donc, il n'y a pas besoin qu'on marque par de signes particuliers les maisons. Pourquoi donc fallait-il marquer du sang de l'agneau les portes des maisons? Eh bien, les commentaires rabbiniques nous disent, le sang sur les linteaux des portes veut dire prière de déranger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Prière de me libérer, de me secouer, de me faire sortir de ma torpeur et de mon confort, de m'amener à n'importe quel prix de la terre de servitude à la terre de liberté. Donc ce n'est pas « do not disturb », « laisse-moi dormir en paix, fous-moi la paix », c'est « donne-moi la paix en me levant, en me dressant, en me faisant sortir de cette terre du péché » pour joindre la terre de liberté. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, Seigneur. Il y a la mer rouge devant, il y a Pharaon derrière. Eh bien, je me lève et je marcherai avec toi, car tu es mon Seigneur et mon libérateur. Chaque fois que nous venons communier, nous marquons du sang de l'agneau les portes de notre cœur, voyez-vous. Et on demande à Dieu, Seigneur, eh bien, je t'en supplie. Réveille-moi, secoue-moi, donne-moi cette liberté. On appelle ça le choix fondamental, la décision profonde de nos existences, est-ce que oui ou non, je veux rentrer dans cette logique-là, qui est la logique évangélique. Saint Augustin avait défini un petit peu cette façon de choisir de façon assez caractéristique. Il disait, il y a deux amours dans nos vies, deux amours qui vont faire deux cités. Le premier amour, l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi fait Yerushalayim, Jérusalem, la cité de la paix, la cité où Dieu a sa demeure. Et puis l'amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu et des autres fait Babylone, la cité de la division, de la confusion, de la guerre. Deux amours ont fait deux cités. Et nous sommes sans cesse en train de choisir entre ces deux amours, voyez-vous. À chaque moment, quand on regarde bien qu'est-ce que le péché, dans la définition de saint Thomas d'Aquin, c'est le péché consiste à préférer la créature au créateur et la sainteté consiste à préférer le créateur à la créature. Et d'aimer la créature sous le regard du créateur, voyez-vous. Non pas d'exclure l'un et l'autre, mais d'ordonner nos amours. L'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi, ce désir ardent d'entrer dans cette logique-là. Dans les expressions de saint Ignace de Loyola, pour celles et ceux d'entre vous qui ont fait les exercices, c'est ce choix qu'il fait au début des exercices des deux étendards. On est des soldats prêts au combat, et donc on va devoir servir sous un étendard, ou l'étendard de Jésus-Christ, la croix du Christ, ou l'étendard du voisin d'en dessous qui conduit à la guéguerre. Dans les mots d'un philosophe qui s'appelle Kierkegaard, il dit une chose intéressante, il dit finalement « Notre vie va aussi passer par ce qu'il appelle le baptême du choix. » Il dit « Il y a trois stades dans nos vies. Un premier stade qui est le stade esthétique. Le stade esthétique, selon les mots de Kierkegaard, c'est le lieu des potentialités, le lieu de l'ouverture au monde. Mais c'est le lieu aussi où je me garde tout engagement, voyez-vous. Si vous dites, tiens, je suis un sportif d'élite, je suis tous les sports à la télévision, et finalement j'ai envie de pratiquer tous les sports, mais j'en fais aucun, de peur qu'en faisant un, je m'exclue des autres. Ben, vous serez empâté au bout de quelques années, voyez. Vous ne serez pas le sportif que vous entendiez être. Vous engagez dans un sport, exclut bien sûr peut-être la possibilité d'en faire d'autres, en tout cas au niveau de compétition, mais au moins vous aurez une condition physique. Eh bien, c'est le deuxième stade dans lequel nous introduit Kierkegaard. Il dit que c'est le stade éthique, le stade d'un engagement, le stade esthétique est le stade du séducteur, de celui qui voit partout des potentialités, qui voit partout des explorations possibles, mais qui ne prend pas de décision, qui ne choisit pas. Et Kierkegaard appelle ça le baptême du choix, le jour où je prends une décision de bâtir ma vie selon une certaine perspective. La sphère éthique, c'est l'immédiateté, c'est l'aujourd'hui, c'est le maintenant. La sphère éthique, c'est celle de l'exigence. Puis il y a une troisième sphère, la sphère religieuse, dit Kierkegaard, le philosophe. Et cette sphère religieuse, eh bien, c'est celle où je me plie à ce que Dieu attend de moi. C'est celle dans laquelle je vais rentrer dans un chemin qui m'est offert et c'est celle qui va me conduire à une plénitude de vie. Voilà, où je me regarde sous le regard de Dieu. Donc il y a une décision à faire. Dans nos vies, il y a des décisions. Un jour, un professeur de management visite une grande école française, je ne citerai pas le nom pour préserver les choses, c'est en trois lettres, vous savez, un E qui commence à terminer par un A, et il va donner un cours sur le management du temps. Alors tout le monde est dans les starting blocks en disant « ça y est, on va enfin apprendre à manager notre temps ». Et le prof arrive avec une belle attachée caisse, comme ça, assez grand, genre plutôt valise, et tout le monde se dit « sans doute a-t-il le dernier PowerPoint, le machin, télécommande, 3D ». Et puis le gars sort un gros pot, comme ça, et le met sur le bureau. Un genre, c'est un peu déconcerté par ce pot, et commence à prendre des cailloux et met les cailloux dans le pot. Alors, ils disent, bah, marrant. Puis, première question du prof, est-ce que le pot est plein? Ce sont des gens intelligents, vous savez, donc ils réfléchissent. Alors, certains disent oui, non, le vide et tout ça. Il prend du gravier qu'il avait dans sa valise, heureusement, il verse dedans, il remplit. Il dit, est-ce que c'est plein maintenant? Et certains disent oui, non. Et la plupart arrivent quand même à la conclusion que non, c'est pas plein. Il dit, vous avez raison, il prend du sable, il met le sable à l'intérieur, ça glisse entre les interstices du gravier, des cailloux, il dit, est-ce que c'est plein? Non, il prend de l'eau, il dit, effectivement, vous avez raison, il remplit à bord avec de l'eau. Alors, est-ce que c'est plein cette fois-ci? Alors, les grands intellos disent, oui, mais la nature est pleine de vide. Bon, d'autres disent, mais non, effectivement, on ne peut rien mettre dedans de plus. Quelle est la conclusion que vous tirez? Dit le professeur. Et un lève la main, le galet de la classe qui dit, mais c'est que quand notre agenda est plein, on peut toujours ajouter des choses dedans. Et il dit, vous avez tout faux. La leçon que j'aimerais que vous tiriez de cette expérience, c'est que si vous ne commencez pas par mettre les gros cailloux dans votre peau, vous ne pourrez plus jamais les mettre après. Si vous commencez par mettre de l'eau, du sable et du gravier, il n'y aura plus de place pour les gros cailloux. Et la vraie question qui se pose, c'est quels sont les gros cailloux de votre existence? Qu'est-ce qui doit avoir la première place dans votre existence, dans vos 24 heures par jour, dans vos 7 jours par semaine, dans vos 30 jours par mois, dans vos 365 jours par année? Qu'est-ce qui va être prioritaire? Qu'est-ce qui va être... Ah, j'ai pas eu le temps de prier aujourd'hui. Ok, c'était du gravier ou un gros caillou, la prière? Qu'est-ce que tu as mis comme gravier ou comme gros caillou en priorité dans ta vie? Ah, j'ai pas eu le temps de faire une retraite cette année. J'ai switché complètement le forum des jeunes. C'est pas pour vous, vous êtes pas concernés, vous êtes là, donc c'est bien. Et donc, ouais, mais on peut être là physiquement sans être là de cœur, voyez? Ah, peut-être vous êtes concernés alors quand même. Quelle est la priorité que vous mettez dans ce forum des jeunes? Rencontrer des potes? Le bar là-bas, j'ai vu, ouais, super, celui de Parémonial. Ou alors Jésus. Voilà, donc il y a une priorité qu'il faut vivre pour pouvoir expérimenter ce Dieu qui visite librement votre cœur. Donc la décision à prendre, quels sont les obstacles maintenant? Alors, il y a quelques obstacles. Un obstacle auquel on n'y pense pas beaucoup, c'est un poète, Rabindranath Tagore, qui est des prix Nobel de littérature, un poète de Calcutta d'ailleurs, qui dit cette chose-là. « Pendant des milliers d'années, j'ai cherché Dieu. Il m'est arrivé de l'entrevoir, mais sans ne jamais pouvoir le rejoindre. J'avais beau courir, le chercher partout, je ne le trouvais pas. Un jour, j'ai fait les montagnes, les vallées profondes, le fond des mers, les villes, les campagnes. J'ai cherché Dieu partout. » Un jour, je parvins devant une porte sur laquelle était écrit « C'est ici que Dieu habite ». Waouh ! Pour la première fois de ma vie, je me mis à trembler. Je gravis les marches. Je levai la main pour frapper. Quand, en un éclair, je compris. Que se passerait-il si Dieu m'ouvrait la porte ? Ce serait la fin peut-être de l'aventure, les voyages, les pèlerinages, la philosophie, la poésie, la nostalgie de mon cœur. Franchir cette porte serait peut-être un suicide. Voyant cela, j'enlevai mes chaussures afin de pouvoir me retirer sans bruit. Arrivé au bas de l'escalier, je pris mes jambes à mon cou, sans jeter un coup d'œil en arrière, en espérant vivement que Dieu n'ait pas ouvert la porte pour me regarder. Et depuis lors, je continue à courir. Je poursuis ma quête. Ce n'est pas trop difficile puisque je sais où Dieu habite. C'est là qu'il ne faut pas que je n'aille pas le chercher. C'est le seul endroit que je dois éviter. Partout ailleurs, je peux le chercher sans danger. Et je trouve intéressant, voyez-vous, parce qu'on cherche Dieu, mais quand on va le rencontrer, mais qu'est-ce qu'il pourrait me demander? Ouh là 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 là! Donc je le maintiens à une certaine distance pour surtout pas que je prenne le risque que Dieu me demande quelque chose que j'aimerais pas. Mais Dieu ne vous veut que heureux. C'est le bonheur qu'il vous donne. Faire la volonté de Dieu, c'est rentrer dans le bonheur que Dieu veut pour chacun et chacune d'entre vous. Et il le sait même mieux que vous, ce bonheur. Il le connaît même mieux que vous. Dans un petit sanctuaire en Suisse, il y a une très belle prière. Marie, je te remercie de ne m'avoir pas exaucé. Je te demandais, en fait, mon malheur. C'est, on croit toujours que toutes nos prières doivent être exaucées. C'est une petite fille, un jour, qui avait demandé, enfin, discutait à l'école, qu'est-ce que tu demandes comme cadeau à Noël? Et elle a dit, je demande à Jésus une Barbie. Poupée Barbie, vous savez, machin. Voilà. Et alors, enfin, pardon. Voilà. Et donc, ses copines ont dit, mais Jésus, il n'existe pas. Tu n'as pas demandé un... Enfin, si, si, Jésus, il existe et il répond toujours. Ce n'est pas vrai. Donc, ils partent en vacances, arrivés au retour, tout le monde échange sur ce qu'ils ont reçu à Noël et dit, et toi, ta poupée Barbie? Ben non, j'ai pas reçu de poupée Barbie. Ah, t'as vu, Jésus, il n'existe pas, Jésus, t'as pas répondu, Jésus, t'as... Si, il m'a répondu, il m'a dit, non, tu n'auras pas de Barbie. Ah non, c'était clair, hein, c'est clair, il a répondu. Parce qu'il a le droit de dire non, des fois, vous savez. Bien sûr, son... Sa réponse première, c'est « Oui, Je te veux en vie, je te veux heureux, je te veux dans la liberté de l'enfant de Dieu. Et donc, je dirai non à ce qui va entraver cette vie, cette liberté, ce bonheur. Voilà. Donc, cette quête de Dieu est parfois un peu étonnante, et parfois on essaye d'esquiver la rencontre avec Dieu de peur que si on le donne le petit doigt, on le connaît bien, il va tout nous piquer. Et cette peur est une ruse du malin, vous savez. Si on le donne le petit doigt et qu'il prend tout notre cœur, alors on a la vie, et la vie en plénitude. Le pape François, Benoît XVI disait « N'ayez pas peur », citant d'ailleurs Jean-Paul II, « Le Christ n'enlève rien, rien, rien de ce qui fait la vie belle, grande, généreuse et aventureuse. Il donne tout pour remplir en plénitude les plus grands désirs qui sont les nôtres. » Donc, premier obstacle peut-être, cette peur de Dieu, cette crainte de Dieu, cette peur de capituler devant Dieu, de lâcher prise. Deuxième chose, le péché. Vous avez entendu parler de ce truc-là? C'était un jour un prêtre qui demandait au catéchisme à des enfants, qu'est-ce qu'il faut commencer par faire pour faire une bonne confession? Monsieur le curé, il faut commencer par faire des péchés. Ben ça c'est vrai, mais ça va habituellement. C'est pas le problème le plus grave pour faire une bonne confession. Après, il y a d'autres étapes comme ça. Voilà. Il y a parfois en nous une certaine ménagerie qui nous habite, le lion de l'orgueil, de la domination, le coq de la vanité, le chat de la flatterie, le renard de la fourberie, le serpent de l'envie, l'ours de la possessivité, la pie de la critique, le singe de la moquerie, le rhinocéros brutal, le pachyderme insensible, la mule entêtée, l'anguille fuyante, le lièvre peureux, la chèvre qui murmure sans cesse et qui rouspète, le porc étalé dans son plaisir, le chien colérique, les mouches bourdonnantes du souci et le ver rongeur de l'inquiétude. On le voit chez les autres, hein ? Eh bien, il y a une parole lumineuse, Jean 1, 29. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Ah, génial ! On a trouvé la petite bête qui dompte toutes les autres. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui est capable d'ordonner toutes ces passions, ces tendances qui sont en nous et qui peut nous conduire à blesser l'autre, à blesser Dieu et à se blesser soi-même. Voilà, donc un travail à faire de ce côté-là pour identifier ces petites bêtes qui m'habitent, qui me squattent, pour laisser l'agneau de Dieu, qui est doux et humble de cœur, régner dans mon cœur et dans ma vie. Troisième obstacle peut-être à ce chemin du royaume en moi, la peur. Peur du regard des autres, peur de sortir des sentiers battus, peur du qu'en dira-t-on, peur de moi-même parfois. On peut se faire peur. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais quand je vois ce que... C'est en Suisse, on dit, quand on voit ce qu'on voit et qu'on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense. Ça ne veut rien dire, mais enfin... voilà. Mais des fois, quand on voit un petit peu notre tendance intérieure, on se dit, ouï, ouï, ouï. Oui, ben, ça fait partie de nous. N'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur. Saint Ignace de Loyola nous dit que la peur est la stratégie par excellence du démon. Il y a des gens qui sont bourrés de peur. C'est Gad Elmaleh, vous savez, fais attention. Moi, je t'ai éduqué avec un principe, fais attention. Alors, j'étais là, si, tu fais quoi? Je fais attention. Mais à quoi? Je sais pas, mais je fais attention. C'est assez paralysant, vous voyez. Et donc, ayant la liberté des enfants de Dieu, ayant la liberté d'avancer, ayant la liberté d'entrer dans cette confiance en Dieu. Un autre point qui est aussi important aujourd'hui, c'est le pape François qui insiste beaucoup là-dessus, la mondanité spirituelle. Qu'est-ce que la mondanité spirituelle? Il dit, les démons, souvent, entrent en sourdine, sans trop se faire remarquer à première vue. Ils commencent à faire partie de la vie, avec leurs idées, leurs inspirations. Ils aident cet homme à mieux vivre. Ils entrent dans la vie de l'homme, ils entrent dans son cœur et de l'intérieur. Ils commencent à changer cet homme, mais tranquillement, sans faire de bruit. C'est le confort, c'est l'installation. Ce mode est différent de la possession diabolique. Ceci est un peu une possession diabolique de salon, dit le pape. Et c'est ce que le diable fait lentement dans notre vie. Le consumérisme hédoniste, le plaisir, peut nous jouer un mauvais tour parce qu'avec l'obsession de passer du bon temps, nous finissons par être excessivement axés sur nous-mêmes, sur nos droits et sur la hantise d'avoir du temps libre pour se réjouir. La consommation de l'information superficielle, les formes de communication rapides et virtuelles peuvent également être un facteur d'abrutissement qui nous enlève tout notre temps et nous éloigne de la chair souffrante des frères et sœurs. Au milieu de ce tourbillon actuel, l'Évangile vient résonner de nouveau pour nous offrir une vie différente, plus saine et plus heureuse. Et il appelle ça la mondanité spirituelle, qui est une vie de routine, contente, où on se contente de la normalité, sans élan, sans enthousiasme, en ayant perdu la ferveur du premier amour. Alors, dit-il, on prend des distances avec l'amour, non pas par méchanceté, mais parce qu'on préfère ce qui est à soi, les sécurités, l'auto-affirmation, les commodités. Il disait à Cracovie, ce sont les chrétiens de salon qui préfèrent le sofa, le canapé, à la vie d'aventure. Voyez ? Et donc ça, c'est aussi un piège, parce qu'on est endormi, on est anesthésié. Vous savez, en grec, la résurrection se dit anastasia. Et les chrétiens doivent être des anastasiés, des ressuscités, des mis debout, et non pas des anesthésiés. Vous voyez, il y a distinction entre anastasié, mis debout, en route pour marcher avec Dieu, et anesthésié, comme ça. Il y a des esquives aussi que l'on peut avoir avec Jésus dans cette mondanité spirituelle. C'est parfois l'esprit du monde aussi, qui nous fait perdre le sens du réel. On raconte qu'un jour, il y avait un paysan avec son troupeau de moutons qui était sur une prairie, et il voit arriver un mec, Porsche Cayenne, Turbo S, triptonique customisé, complet Armani, chaussures Gucci, lunettes Ray-Ban, cravate Hermès. Il sort de sa voiture et il arrive vers le paysan et dit « Si je vous dis le nombre exact de moutons que vous avez, est-ce que vous m'en donnez un ?» Le paysan dit « Allez-y si c'est votre trip. » Alors il sort son ordinateur portable, téléphone satellitaire, il se branche sur un satellite, prend une photo du troupeau de moutons, il a un logiciel de scannage et de dénombrement, il met en route son logiciel, données Excel, tableau, vous avez 1586 moutons. Le paysan dit, bien joué, c'est exact, alors prenez-en un. Alors le type fait son choix, en chope un, le met dans le coffre de la Porsche Cayenne, ferme le coffre et va pour partir. Et le paysan dit, et si j'ai le métier que vous faites, est-ce que vous me rendez mon mouton, ma bête? Puis il dit, bah, écoutez, dites-moi, vous êtes diplômé ingénieur qualité, vous faites des audits. Ah bon, dit le berger, dit le gars, comment vous savez? Mais c'est facile, vous débarquez ici alors que personne ne vous l'a demandé, vous l'êtes payé pour avoir répondu à une question dont je connaissais déjà par avance la réponse et dont tout le monde s'en fout, et manifestement, vous ne connaissez rien à mon métier. Maintenant, attendez, c'est pas tout. Maintenant, rendez-moi mon chien. Voilà, donc, des façons de passer à côté du réel de la rencontre avec Dieu, voyez ? Jésus nous dit « Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde. » Et le pape Benoît XVI commentait un jour ce passage en disant « La graine de moutarde, bien sûr, c'est la plus petite de toutes les graines. » Il disait « Ce qui veut dire la chose suivante, c'est que dans les choses insignifiantes de notre vie, dans ce qui paraît insignifiant dans nos existences, il y a le royaume des cieux qui est en cause. » Le philosophe Lévinas disait « La sainteté commence par des choses très simples. C'est la certitude qu'il faut laisser à l'autre en tout la première place, depuis « Après toi, je t'en prie » au self le matin, jusqu'à la disposition, à peine possible, mais la sainteté le demande, de mourir pour l'autre. Donc, chaque fois, dans les petits détails de nos vies, dans les petits choix de notre vie, depuis le lever le matin jusqu'au coucher le soir, et même jusqu'à notre nuit, il y a le royaume des cieux qui est en cause. Et ce qui paraît insignifiant, graine de moutarde, eh bien, engage le royaume des cieux par le poids d'amour et le poids de liberté que je mets dans ce que je fais. Alors, il peut y avoir aussi des esquives un peu plus subtiles. L'une, c'est l'intellectualisme. On a dit un mot hier, c'était Benoît XVI qui disait que la plus grande crainte qu'il avait à la fin de sa vie, c'était l'intellectualisation de la voix, de la foi. C'est-à-dire, je tiens Dieu à distance de moi-même par ma tête et mes connaissances. Je peux connaître un tas de choses sur Dieu, je peux avoir un certain nombre de connaissances de lui, mais c'est une façon d'éviter de toucher sa chair blessée, de me laisser mettre en route, bouger par cette chair qui est là. Voyez-vous, j'étais un jour à l'Arche de Jean Vanier, à Rome, quand je travaillais au Vatican encore, et il y avait un Monsignor de la Curie romaine qui nous visitait l'Arche pour la première fois. On était au repas le soir, il y avait Bernadette qui était là, responsable de l'Arche depuis une douzaine d'années, qui connaissait tous les pensionnaires et qui donnait sa vie pour le service des plus pauvres. Et alors c'est intéressant parce que le Monsignoré, le soir, nous fait un cours ex-cathédra sur la spiritualité de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche. C'était assez constipé comme cours d'ailleurs. Et pas très réaliste parce qu'il n'avait jamais touché un pauvre de sa vie, vous voyez, le gars. Et je voyais Bernadette qui fulminait à côté et qui à un moment donné, j'ai dit là elle va exploser la pauvre. Le gars va se ramasser l'assiette sur pleine figure, son col romain, il va le mettre de travers, ça va mal se terminer pour lui. Et elle était plus fine que ce que j'imaginais, enfin ce que moi j'aurais fait d'ailleurs à sa place, plutôt. Elle était fine en elle-même. Et alors elle dit, Monseigneur, Monsignore, voulez-vous que je résume la théologie de Jean Vanier ? Volontiers, mademoiselle. La théologie de Jean Vanier, c'est la théologie du pipi-caca, tu mets les mains dedans et tu reconnais ton frère. Hop là, le col romain fait glou-gloup. Et c'était vrai, elle faisait ça depuis 12 ans, voyez-vous. Elle touchait la chair de nos frères et sœurs blessés. Elle savait que ça voulait dire le handicap quotidien dans ce geste de laver son frère qui vous sourit après avoir été lavé. On n'est plus dans les théories intellectualistes qui nous fait éviter la chair, mais on est dans la rencontre de la chair qui nous permet d'avoir une intelligence du mystère du Christ et de l'amour, ce qui est très différent. Deuxième dérive, l'émotionnalisme. Je reste dans le ressenti, dans l'émotion. Il est normal que l'on ressente, merci Seigneur de leur donner du ressenti et de l'émotion. Vous allez en vivre ici sans doute, des fortes. C'est à travers ça aussi que Dieu vient briser des carapaces du cœur et qui vient rejoindre notre âme profonde. Mais fondamentalement, Dieu, on le rejoint par la foi, l'espérance et la charité. C'est les vertus théologales qui, par définition, ne sont pas sensibles. Et donc, parfois, on préfère nos émotions. Je préfère sentir ce que je ressens à la quête perpétuelle de nouvelles émotions sans jamais creuser et rentrer dans l'acte de foi, l'acte d'espérance et l'acte de charité qui, quelque part, peut parfois contredire mon émotion. J'ai l'impression que Dieu est à 10 000 kilomètres de chez moi. Or, la foi me dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Il y a des fois, je peux le ressentir très très fort, et en fait, je ressens plutôt l'amour du copain à côté que le bon Dieu lui-même. Vous voyez ? Et donc, il y a tout un travail de discernement à faire de ce côté-là. Par un exemple très simple, si je ferme les yeux maintenant, je dis tiens, je suis tout seul dans cette tente, dans cette cantine, c'est génial. Je peux faire ce que je veux maintenant, je vais me reposer un petit peu. Ah mince, vous êtes de nouveau là. Ah mince, vous n'êtes plus là. Ah vous êtes de nouveau là, plus là, ah, là, là. Ce n'est pas ma perception subjective qui va déterminer votre présence objective. Et donc, de la même manière, pour la foi, c'est ça. Il y a parfois un formalisme qui peut être là. Si je respecte toutes les formes, si j'ai les mains à 45 degrés et le pouce droit sur le pouce gauche, alors à ce moment-là, je dois plaire à Dieu. Si j'ai telle posture, dans telle disposition, si je suis vraiment dans ce qu'il y a de plus formel possible, alors là, vraiment, Dieu doit être vraiment content. Mais le Dieu de Jésus-Christ, c'est celui qui rejoint Marie-Madeleine, qui se laisse baiser les pieds par elle, par une prostituée. Enfin, ça ne se fait pas quand même. C'est celui qui va se mettre à genoux par terre, à gratter le sol devant la femme pécheresse qu'on va rejeter. C'est celui qui va sentir l'odeur puante de Lazare qui sort du tombeau. Enfin, vous voyez, c'est un Dieu qui vient dans la réalité des hommes, dans la chair des hommes. Il est le sacrement premier qui est reconnu comme le fils du charpentier de Nazareth. Et plus on se rapproche de ce modèle-là, plus on se rapproche de la façon avec laquelle Dieu demeurera au milieu de nous. Il y a parfois une recherche aujourd'hui assez forte d'identité, de sécurité à travers des formes qui sont une manière d'esquiver Dieu aussi et de ne pas se laisser toucher par lui dans la pauvreté de ce que je suis. Et puis, il y a une dernière démarche, une sorte de spiritualisme. de sublimation par des principes, des théories où je passe à côté du réel. Je vous cite un petit exemple pour comprendre ça. C'est un jour Saint Vincent de Paul qui voit une religieuse en train de balayer un couloir. Très inspirée sans doute. Et Vincent de Paul dit, ma sœur, vous faites ça pour la gloire de Dieu? Alors la sœur, découverte dans les pensées secrètes de son cœur, lève les yeux au ciel, décolle de 3 cm du sol, quasiment en extase, met les mains d'un côté et la tête de l'autre, comme dans les statues de la Vierge Marie, et se dit, oh oui, mon père. Et Vincent de Paul lui dit, ben ça se voit, ma sœur. Parce que si vous faisiez ça pour que le couloir soit propre, vous y prendriez tout autrement. Vous voyez, il y a des choses qu'on croit faire pour la gloire de Dieu, mais pour faire, pour nettoyer le couloir pour la gloire de Dieu, il faut maîtriser la technique de surface d'abord. Ce qui veut dire qu'il faut savoir comment balayer un couloir, non pas dans le sens contraire du vent, ce qui n'est pas très utile, de savoir comment tenir un balai. Ça, c'est le réalisme spirituel du chrétien, voyez-vous, d'incarner les choses et de les vivre correctement. Donc il peut y avoir parfois un formalisme comme ça, une histoire authentique durant la Deuxième Guerre mondiale. Des moines étaient à l'office liturgique, priaient vêpres. Les sirènes se mettent à hurler et tout d'un coup on entend autour du monastère boum, boum, des bombes qui tombent. Un vieux moine dit, mes frères, arrêtons l'office, mettons-nous à prier. Authentique, authentique. Voyez ? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et parfois aussi dans nos dévotions. Un jour, une dame vient trouver Bernadette de Lourdes et dit, « Ma sœur, pouvez-vous demander à Marie telle grâce ?» Et Bernadette dit, « Mais écoutez, je vais prier tout de suite pour vous. » Il y avait une statue de Saint-Joseph, elle se met à genoux devant la statue de Saint-Joseph. Et la dame dit, « Pas Joseph, j'ai dit Marie !» Et Bernadette dit, chut, ne dites rien, au ciel on s'entend très bien. Voilà, donc des manières de résister Dieu, mais peut-être que la manière la plus subtile, à un moment donné, n'est plus tellement de choisir entre le bien et le mal. On a compris que Dieu n'aime pas trop le mal en soi. Ça va? Il est plutôt contre le péché, vous avez remarqué? Donc il est plutôt pour le bien. Ce qui devient plus subtil, c'est dans la finesse du bien que je fais. Et le malin, à un moment donné, va nous tenter entre des biens différents. Non plus de faire entre le mal et le bien, ce qu'on a compris, même si on le fait toujours, on sait que ce n'est pas génial. Bref, la miséricorde de Dieu est là et nous donne d'avancer à travers cette pédagogie. Mais parfois, c'est entre deux biens qu'il faut choisir. Et la clé nous est donnée par les actes des apôtres, où il nous est dit que Saint-Pierre passait toujours en faisant... Pardon, Saint-Pierre parle de Jésus en disant il est celui qui passait toujours en faisant le bien. Non pas du bien, mais le bien. Ce que le Père voulait qu'il fasse. Il n'a pas guéri tous les lépreux qu'il a rencontrés. Il n'a pas d'abord été vers Lazare qui était malade et il est venu par la suite vers lui, alors qu'il était déjà mort. Il n'a pas ressuscité tous les morts qu'il a croisés. Il n'a pas guéri tous les paralytiques qu'il a vus. Il a fait ce que son père lui demandait de faire. Non pas du bien, il y en a tellement à faire dans le monde, tellement, tellement, tellement. Mais le bien, ce que le père veut que je fasse. Et je deviens l'instrument du père. Voyez-vous, c'est la différence entre les œuvres pour Dieu, qui sont gigantesques dans un monde en besoin, et l'œuvre de Dieu, où je deviens l'instrument du bon Dieu pour faire ce qu'il en est. Dit autrement, une chose est de jouer du violon pour Dieu, l'autre chose est de devenir le violon du bon Dieu qui joue à sa place. Et là, quelqu'un disait un jour, si tu veux faire rire le bon Dieu, parle-lui de tes projets. Si tu veux rire, laisse Dieu te parler à lui, à toi, de ses projets à lui. Il paraît que le rire n'est pas toujours le même. On raconte qu'un jour, il y avait un magnifique chêne devant une église tricentenaire. Et on a dû le couper parce qu'il mettait en péril un peu l'espace. Et donc le chêne reposait par terre. Et Dieu vient le trouver et dit, « Bonjour, ô beau chêne !» Il a dit, « Je suis reconnu, je suis beau. »« Merci, c'est vrai. » Et Dieu dit, « J'aimerais bien me servir de toi. Est-ce que tu aurais une proposition ?» Et le chien dit, ah, puisque tu me poses la question, ça fait très longtemps que j'y pense, depuis 300 ans. Je pourrais être l'autel de l'église, tu vois. Un bel autel solide sur lequel le prêtre puisse s'appuyer, célébrer la messe. Ce serait extraordinaire et tu viendrais, Seigneur, sur moi. Réaliser ta présence réelle. Ce serait beau, Seigneur. Et Dieu dit, ouais. Alors peut-être qu'il dit, mais peut-être que je suis trop ambitieux. Alors il dit, on pourrait faire, moi, des bancs d'église, mais des bancs confortables. De sorte que même si l'homélie dure 12 minutes 37, eh bien, les gens n'ont pas là, on dit, oh là là, on a mal au dos, c'est pas possible. Donc, il dit, voilà, ben, tu pourrais, un beau banc bien confortable, aérodynamique et tout. Alors, tu dis, ouais, bonne idée. Alors, il diminue un petit peu ses ambitions en disant, peut-être qu'on pourrait faire moi la porte de l'église. Tu as vu cette porte, elle est toute pourrie, elle laisse passer la lumière, le vent, enfin, on pourrait faire une porte, mais bien hermétique comme ça, qui isole également le bruit extérieur. Comme ça, il y aurait l'espace sacré du sanctuaire, silencieux, et le monde extérieur serait exclu de l'intérieur d'un espace sacré. Et Dieu dit, ouais. Alors le chêne, à court d'idées et devant la déception apparente du bon Dieu, dit, mais peut-être que tu as une idée, Seigneur. Et dit, ah, puisque tu me poses la question, j'en ai une. Ouais, écoute, j'ai vu le monde à l'extérieur, justement, moi. Et j'ai vu que le monde à l'extérieur, ben, il y a deux problèmes. Il est un petit peu enténébré, il fait assez nuit, et il fait très froid. Il manque d'amour, il manque de lumière de vérité, il manque d'amour de charité. Alors, j'ai une proposition à te faire. On te coupe en petits morceaux, on fait de toi du bois de feu, on te boute le feu, et comme ça tu peux éclairer le monde et réchauffer le monde. L'histoire ne raconte pas quelle fut la réponse du chêne. C'est donc cette disponibilité entre les mains de Dieu que Dieu attend de nous, voyez-vous. Est-ce que j'accepte de rentrer dans l'œuvre de Dieu et non pas l'œuvre pour Dieu? On peut avoir une imagination extrêmement fertile pour les œuvres de Dieu. L'imagination de Dieu est encore bien plus grande et bien plus profonde pour l'œuvre de Dieu qu'il veut réaliser dans nos existences. Et quand on capitule et qu'on dit « Seigneur, je suis ce chêne, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. » C'est la prière de Charles de Foucault, pour celles et ceux qui l'ont reconnu. Alors là, on rentre dans le bonheur d'être l'instrument du bon Dieu pour que son œuvre et son règne viennent dans les cœurs et dans le monde. Et ça va chercher très loin, cette finesse-là. Voilà. Pour cela, eh bien, une réponse. Vous allez apprendre un nouveau mot hébreu, vous en connaissez en tout cas tous un, c'est « Amen ». Qui veut dire c'est solide, c'est le roc, c'est solide. Il y a un autre mot hébreu, c'est inéni. Ça va? C'est simple. On essaie de le faire ensemble. Inéni. Vous avez raison de le dire lentement parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais vous le dire, je pourrais le dire après fortement. Ça veut dire me voici. Me voici. Inéni. On est prêt? On le fait ensemble? Inéni. Allez-y, à vous. Ah, bravo. Me voici. C'est la réponse que Dieu attend. C'est la réponse de Samuel. C'est la réponse des prophètes. C'est la réponse de Marie, me voici. C'est la réponse que l'on dit au mariage, me voici. Que l'on dit dans la consécration religieuse, me voici. Que l'on dit au sacerdoce, me voici. Je suis là devant toi, Seigneur. Et Emmanuel Lévinas, le philosophe, disait, quand je dis me voici, je dis une chose extrêmement importante. Je ne dis pas je voici. Je dis « me voici ». Vous voyez la différence grammaticalement? C'est pas « je, moi, je », c'est « me » dans le sens qu'il y a un sujet qui m'interpelle. Le « me » est relatif à un sujet qui m'a interpellé. Et le « voici » est une réponse à ce quelqu'un qui me fait face et qui me dit « est-ce que tu veux bien ?» Pas toujours évident, hein? Quand Dieu s'approche d'Isaïe, il dit « il y a un problème dans mon peuple, tu sais ». Ça ne va plus, il n'y a plus personne. Ah, dit Isaïe, tu as raison, il y a vraiment un problème, il faudrait que tu envoies quelqu'un. Hein. Ouais, j'ai cherché partout, je ne sais pas. Hey, c'est un vrai problème, ça. Où trouver quelqu'un? Puis Dieu dit, vraiment, ouais, c'est une grande question pour moi. Peut-être toi. Ah non, mais moi, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai un problème de langage, ce n'est pas possible. Ah, ben, dit Dieu, si c'est que ça, on peut corriger le problème. Alors après, il dit, bon, ben, d'accord, on y va. Vous voyez? Mais si ça, c'est génial, il y a plein de personnes qui pourraient dire « me voici ». Et puis le voisin, alors là, il est génial. Mais lui, mais elle, mais je te dis, ouh là 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 là, si le bon Dieu se sert, ouh, ça va bien. Et puis toi, non, lui voici, l'autre voici. Non, non, me voici. Ni je voici, ni l'autre voici, ni lui voici, mais me voici, Seigneur, chacune, chacun. Pour chacune, chacun de Dieu a un plan d'amour sur vous. Et il vous demande de répondre, me voici. C'est ainsi que je vais pouvoir, avec ce courage, entrer dans la vie de Dieu. C'est Jean-Paul II à Fatima, n'ayez pas peur, chers enfants, n'ayez pas peur. Allez-y, donnez-vous au Christ. Et n'ayez pas peur aussi du monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas un monde ancien qui meurt, c'est un monde nouveau qui commence. Il y a un mot qu'utilise beaucoup le pape François, c'est du grec cette fois-ci, c'est le mot parésia. La parésia, c'est une parole de courage, une attitude de courage, une attitude de détermination. Il dit que c'est le sceau de l'Esprit Saint qui marque l'authenticité de l'annonce. Je suis conscient des difficultés, je suis conscient des épreuves, mais j'avance. Et le pape François rajoute, Dieu n'a pas peur, il n'a pas peur. Il va toujours au-delà de nos schémas et ne craint pas les périphéries. Jésus nous devance dans le cœur de ce frère, dans sa chair blessée, dans sa vie opprimée, dans son âme obscurcie. Il est déjà là. N'ayez pas peur d'aller rencontrer le Christ. L'audace me fait sortir de moi une extase d'abord dans l'émerveillement de l'amour de Dieu et un exode vers les plaies de mes frères et sœurs. Voilà. Et dit, il faut vraiment aider Dieu à vivre cela en nous. Et le pape, sa petite pointe d'humour, il faut certes ouvrir la porte du cœur à Jésus-Christ, car il frappe et il appelle. Mais parfois, dit le pape François, je me demande si, à cause de l'air irrespirable de notre autoréférentialité, Jésus n'était pas déjà en nous, frappant en nous disant « Mais laisse-moi sortir de toi, ça pue à l'intérieur !» Donc, voilà, ça c'est le petit humour du pape François. En disant, voilà, laissons le Christ prendre en main nos existences, laissons le Christ venir en nous. Je vais ainsi devenir moi-même, me personnaliser. Vous voyez, il y a deux tentations, on a deux dimensions dans l'être humain, une dimension d'intériorité, cette unité intérieure que je cherche à bâtir, et la dimension de relationnalité, d'ouverture à l'autre. Les deux sont fonction l'une de l'autre. Plus je manque d'intériorité, plus l'autre... étranger, différent, me fait peur. La grande peur de l'étranger aujourd'hui, la grande peur de l'autre comme différent dans notre civilisation, notre culture, c'est un manque d'intériorité. Un arbre qui n'a pas de racines se sent menacé par le moindre coup de vent ou la petite brise. Un arbre qui a des racines n'a pas crainte des orages et des tempêtes, voyez-vous. Rien ne peut nous déstabiliser. Et alors, la caricature de l'intériorité, ce serait la singularité. Je me singularise. Je mets trois piercings, une crête, et là je suis différent des autres. Il n'y a pas deux qui ont la crête rouge, violette, rouge, orange comme moi. Je suis vraiment unique au monde. Ce n'est pas tout à fait ça qui fait que tu es unique au monde, vous voyez ? Et puis, la tentation dans la relationnalité de rester unique et soi-même, eh bien, la caricature, ce serait le mimétisme. J'essaie d'imiter les autres, de faire comme les autres. Et ce que Dieu veut faire en nous, c'est à la fois nous intérioriser et faire, parce que nous sommes profondément intériorisés, des êtres capables de relationnalité. La seule manière de le faire, c'est de se laisser saisir par le Christ, d'accueillir le Christ totalement dans nos existences, voyez-vous. C'est un jour, trois filles qui étaient devant la devanture d'une bijouterie et une admirait les diamants qui étaient là. Il y avait le collier, il y avait le petit diadème... Il y avait la bague. « Waouh, si je pouvais me payer ça !» Et le dit, « Moi, c'est plutôt les émeraudes, le verre qui me va bien. Le collier, le bracelet, le petit machin ici, là et tout. » Voilà. Et puis le piercing au nombril. Et donc, ça, ce serait génial. Et la troisième ne disait rien. Elle dit, « Et toi, qu'est-ce que tu aimerais ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Qu'est-ce qui te fait plaisir ?» Et la troisième dit, « Je songe à épouser le fils du bijoutier. » Comme ça, tout le magasin est à elle, voyez ? Eh bien, nous avons épousé au baptême le fils du patron, s'appelle Jésus. Et toutes les grâces du Père nous sont données par le Christ. Voilà, donc n'ayez pas peur de cela. N'ayez pas peur de placer Jésus au centre de vos existences, de penser à lui, de faire les choix de vie, d'avancer chaque jour en lui parlant. Jésus, tu es là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu es avec moi. N'ayez pas peur, il n'y a pas de risque d'obsession. Un jour, des psychiatres sont venus voir Padre Pio. Vous savez, Padre Pio était ce prêtre italien qui avait eu des stigmates. Et la conclusion du rapport psychiatrique disait la chose suivante. À force de penser à Jésus crucifié, il lui a poussé des stigmates. Phénomène de psychosomatisation, un peu tragique, comme ça. Alors le frère vient donner les résultats du rapport médical à Padre Pio, qui éclate de rire. Le frère tirait la gueule, le pauvre. Padre Pio éclate de rire et dit, ben, dites à ce médecin qu'il pense pendant 6 mois à un bœuf, on verra s'il lui pousse des cornes. Donc, aucune crainte comme ça. Allez-y. Et Dieu veut se servir de vous. Ça, c'est aussi la chose importante pour bâtir la situation de l'amour, pour bâtir un monde nouveau, pour l'audace de ce monde que Dieu veut faire naître aujourd'hui de l'Évangile, de la fraîcheur de l'Évangile, de l'actualité de l'Évangile, de la jeunesse de l'Évangile. Dieu veut chacune et chacun d'entre vous. Un jour, une histoire authentique aussi, un jeune prêtre en Amérique latine, le père Pedro, avait reçu une paroisse de son évêque, et la paroisse avait un prêtre qui avait quitté le sacerdoce quelque temps auparavant, qui avait laissé la paroisse en friche matériellement, elle était catastrophique, l'église était délabrée, la paroisse était déchirée, divisée, bref, le jeune prêtre arrive là-bas, se met à prier, et puis prend des initiatives. Il invite tous ceux qui ont un petit peu la main artisanale de restaurer l'église, il fait une chorale, il institue les servants de messe, bref, au bout de 2 ans, la paroisse est renouvelée. Et l'évêque, qui voulait souligner le travail de ce prêtre et l'énergie qu'il avait mis à renouveler la paroisse, voulait donner en exemple ce prêtre aux autres prêtres, mais finalement il disait qu'il ne faudrait pas qu'il en tire orgueil, c'est un jeune prêtre. Donc il a trouvé la formule idéale. Mes chers frères, j'aimerais relever ici le travail extraordinaire qu'a fait l'Esprit Saint dans la paroisse du Père Pedro. Et le Père Pedro lève la main et dit « Monseigneur, j'aurais aimé que vous voyiez l'état de la paroisse quand l'Esprit Saint travaillait tout seul. » Voilà, c'est bon. Donc, dernière parole avec l'aide de l'Esprit Saint. Voilà. Eh bien, Dieu veut se servir de nous. C'est bien l'Esprit Saint qui nous inspire. C'est bien l'Esprit Saint qui nous habite. C'est bien lui la cause première. Mais nous sommes cause seconde. De la même manière qu'il faut une source vive pour que l'eau du robinet puisse être buvable et agréable à boire. Si vous n'ouvrez pas le robinet avec la meilleure source possible, vous n'aurez rien. Mais vous savez, le plus beau robinet du monde, s'il n'y a pas de source derrière, vous n'aurez rien aussi. Et donc il faut et la source et le robinet pour irriguer ce monde des lumières de l'Esprit Saint et de la grâce de Dieu. Alors voilà, demandons cette force, frères et sœurs. Nous sommes appelés à bâtir une civilisation de l'amour, à bâtir un monde nouveau, à ce que le règne de Dieu, qui est déjà là au milieu de nous, puisse éclater justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Qu'il puisse rayonner en charité fraternelle, qu'on nous reconnaisse comme des enfants du Père. C'est un jour en Amérique latine aussi, petit garçon devant une devanterie, tout pauvre, en haillons, qui voit des magnifiques habits pour enfants. Et une dame arrive et dit « Mon petit, tu aimerais des habits ?» L'enfant panique, mais dit « N'aie pas peur, je vais t'offrir des habits pour toi. » Alors, elle rentre à l'intérieur, elle dit « Qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Le gars panique, il ne sait pas ce qui va se passer. Il montre un pantalon, elle lui achète le pantalon, une chemise, un deuxième pantalon, 2, 3 habits. Et l'enfant dit, Madame, vous êtes le bon Dieu. Elle dit, non, mais je le connais bien car c'est mon père. Ah, je savais qu'il y avait un lien de parenté entre vous. Il y a un lien de parenté entre nous. La bonté infinie du Père doit passer par notre bienveillance les uns à l'égard des autres. Les chrétiens, Tertullien, un père de l'Église, reprenant une erreur que faisaient les accusateurs des chrétiens, il les appelait pas Christianus, mais Christianus. Christianus, il disait très volontiers Christianus, ça vient de Christos en Grèce, en grec, pardon, la bonté. Vous êtes la manifestation de la bonté du Père pour les hommes. Comme le Christ était la manifestation de la bonté du Père pour chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes appelés, nous, disciples du Christ, de ne pas faire partie du clan de Jésus. C'est pas ça, on n'est pas un clan isolé. On est les bons cathos entre nous, les BCBG, cathos. On est les disciples du Christ et on manifeste, comme le Christ, la bonté du Père à l'égard de chacune et de chacun. Voilà ce que j'aimerais vous dire et vous terminer avec une prière que j'aime beaucoup. C'est un père Louis-Joseph Lebret, un dominicain qui est mort en 1966, qui était très engagé dans les actions sociales, dans la pensée sociale de l'Église. C'est lui qui a inspiré une grande encyclique du pape Paul VI, Populorum Progressio, le progrès des peuples, le développement des peuples, qui était vraiment un cri que l'ONU a adopté immédiatement comme étant la parole prophétique dans un monde d'injustice pour que la paix et la justice reviennent. Le père Lebret faisait cette prière « Ô Dieu, envoie-nous des fous qui s'engagent à fond, qui oublient, qui aiment autrement qu'en parole, qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout. Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés capables de sauter dans l'insécurité, l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté. Il nous faut des fous du présent, épris de vie simple, amants de la paix, purs de compromission, décidés à ne jamais trahir, méprisant leur propre vie, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de partir n'importe où, libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts à la fois. Ô Dieu, envoie-nous des fous, car la folie de l'Évangile est sagesse de Dieu. Amen.